Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Déclic, nom masculin, moment qui détermine la compréhension d'une situation, une prise de conscience, ou les deux. Salut, c'est Juliette et Sophie de 18h17 Productions, et vous écoutez Le Déclic. Cette semaine, on a l'honneur de recevoir la formidable Marine Baousson dans Le Déclic. Marine Baousson est humoriste et a lancé depuis un peu plus de 3 mois Vulgaire, un podcast, je cite, de vulgarisation de trucs par quelqu'un qui n'y connaît rien. Ensemble, on a parlé de ses débuts, de l'amour de la scène, de création et d'inspiration, de comment rebondir après une période de doute, et de coton démaquillant aussi. Cœur, pourquoi pas ? Bonne écoute. Bienvenue dans Le Déclic.
Moi, ça me donne des accès de violence. Arrête. De l'apéro et ouais. Le premier t'as Thomas Hercouet qui bouffe dans le micro.
On va faire des montages pour lui faire dire des trucs atroces.
Très bien.
Salut Marine.
Bah tu me mets complètement en confiance alors avec ce truc de dire des trucs atroces. Bonjour.
Comment tu vas ?
Eh bien, je vais bien, merci beaucoup.
Bah,
merci. Et toi, ça va ?
Bon, écoute,
ça, en plus ça fait longtemps qu'on s'est pas vu en vrai. Bah, tu ça se compte
ça
en années, en
5,
vrai
6 ans facile.
Ouais. Ouais. Pourtant, t'as pas changé. Qu'est-ce que tu deviens ?
Donc merci d'avoir accepté notre invitation pour le Déclic.
Avec grand plaisir, moi je suis toujours contente. Quand on m'invite à faire des trucs, je viens.
Donc je ne sais pas si tu sais comment ça se passe dans le Déclic, mais avant de parler de ton Déclic, on va parler un peu de ton histoire avant.
Bien
pour
sûr.
Remettre les choses dans le contexte, tu vois.
Bien sûr.
Histoire de ne pas y aller de but en blanc. Donc voilà, on se demandait, c'était quoi les métiers que tu voulais faire quand tu étais petite ?
Je pense que petite, je voulais faire genre maîtresse ou docteur.
Maîtresse d'école ?
Ouais, mais tu sais, genre maîtresse prof de tennis ou...
Maîtresse... Ah, ok.
Enfin, tu sais, des trucs, des métiers composés.
D'accord.
Tu sais, où tu fais... En même temps, tu sauves un peu des gens et des fois, tu promènes des chevaux. Tu
vois. Moi, je voulais être astronome et coiffeuse, à un moment.
C'est pas mal. Et donc, c'est pas astronaute.
Non, astronome. Non, je voulais pas aller dans l'espace, j'ai peur des...
D'accord.
Voilà.
Donc, des quoi ?
De l'infini, tout ça.
Ah oui, d'accord. Mais, et donc, tentative de le maîtriser en ayant une putain de coupe.
Exactement.
Pas mal.
Donc oui, tu disais.
Bah, je pense que je voulais faire ce genre de truc. Ouais. À un moment, j'ai vraiment voulu faire prof de tennis. Bon, j'ai été nulle, j'ai voulu faire chanteuse, bien sûr.
Évidemment.
C'est notre
chanteuse prof de tennis, ce serait encore mieux.
Ce serait trop classe. Et tu mets un 7. Un 7, non, pas du tout. Bon, bref. là, j'ai honte. Là, j'ai honte actuellement. Là, je suis toute rouge, je pense. c'est ça. Félicitations pour ce point. Ton revers était slicé.
J'aurais tellement tenté le tennis s'il y avait une prof comme ça.
Je pense que c'est très relou en fait en vrai.
Ça se tente.
Écoute, et c'est bah, franchement, on peut le faire un jour si tu.
Bah, sinon, on fait tout le Déclic en chantant. Non, non,
non. Non.
Je me fais fusiller du regard par Juliette. C'est encore une de mes idées pourries.
Le podcast, c'est bon.
Est-ce que tu avais déjà des prédispositions à la rigolade quand tu étais enfant ?
Bah oui, je pense que oui. Déjà dans ma famille, on est très marrant. Enfin, on est très marrant, genre, je m'inclus, je suis extrêmement drôle. Non, mais dans ma famille, les gens, ils sont drôles. Mon père, il fait des discours à tous les mariages, à tous les trucs de tout le monde. Donc,
Et les gens rient vraiment, c'est pas des rires de gêne ?
Ça dépend. Mmh. Mais de manière générale, quand même, les gens rient vraiment. C'est... Oui, mon frère et ma soeur, ils sont très marrants. Je pense même qu'ils sont plus marrants que moi, les deux. Mon frère et ma soeur. Et ma mère, elle est bon public.
T'as donc, qu'à leur piquer des blagues, en fait.
Franchement, je pourrais. Tu sais que ma soeur, des fois, elle me regarde et vraiment, elle me met vraiment avec du dégoût dans le regard et elle fait pff, quand je pense qu'il y a des gens qui payent pour voir ça. C'est un peu la honte, mais ils sont très marrants, ils rigolent vraiment et je pense, et comme je te dis, ouais, je pense qu'ils sont plus drôles que moi et que voilà, juste moi je suis celle qui s'est lancée dans le truc, mais à un moment mon frère il faisait des vidéos sur YouTube qui étaient vraiment marrantes, enfin non, pas sur YouTube, là où il s'est foiré c'est qu'il les a mis sur Dailymotion.
Mais enfin,
il a parié sur Dailymotion plus que sur YouTube.
Okay.
Mais ça marchait bien, hein. Il était vraiment...
Donc pour Dailymotion, quoi. Enfin, ça marche.
À l'époque. C'était avant tous les trucs. C'était
avant.
C'était au début.
Quoi.
Au début. Ouais, okay. Ouais. Il avait fait la homepage et tout. Enfin, il avait fait, c'était un truc de ouf. Il faisait beaucoup d'écoute pour l'époque, quoi. Et bon, voilà. Sur les musiciens et tout. Elles sont pas mal,
et
ces
maintenant,
vidéos.
Il a laissé tomber l'univers.
Maintenant, de... il est musicien, quoi.
Oui, voilà. Bah, c'est pas mal aussi. Domaine
c'est pas mal. Il fait des discours pour les enterrements, mais il y a moins d'humour. Moins de... Il est très fort en discours d'enterrement.
Ça peut se tenter, mais c'est vraiment très ambitieux pour les enterrements, quoi.
Bon. Moi, dans mon spectacle, tu sais que je parle de l'enterrement de mes grands-mères. Qui est très très. Enfin, franchement, c'était trop marrant. Et donc, c'est vraiment, quand je dis dans le spectacle, et maintenant, je vais vous raconter l'enterrement de mes grands-mères, je sens qu'il y a un petit flottement. Les gens, ils font.
On n'est pas prêts.
On n'a pas très envie.
On va se mettre à fialer.
Ouais, c'est ça. Mais bref, voilà, pardon. Donc, est-ce que oui, bah oui, j'étais rigolote, je faisais rigoler les potes. Voilà, je faisais des blagues, quoi.
Ouais, pas. Il n'y avait pas de velléité. Enfin, c'était juste naturel, quoi.
C'était naturel, c'est pas un truc genre j'ai dû me battre. Parce qu'il y a plein d'humoristes qui disent oui, moi, ça a été ma façon de m'en sortir et d'exister dans ce monde et parce que j'avais pas le choix et tout. Moi, c'est pas du tout ça. Moi, c'est juste que j'aimais bien faire rire les gens. Je me sentais pas rejetée, je me sentais pas. Il y avait pas un truc. C'est pas une revanche, quoi. Le rire, c'est pas une revanche. C'est un moyen de s'exprimer, mais c'est pas un truc de revanche.
Ok. J'ai complètement perdu le fil. Mais c'est bien. Je suis un peu rouillée du déclic, en fait.
c'est joli comme phrase, je suis rouillée du déclic. Titre.
Ça... Ouais, ok.
Si, je suis rouillée du déclic.
C'est un petit peu... Oui. Non, c'est un peu crypté, mais pourquoi pas. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as fait rire des gens en vrai? Enfin...
La première fois? En vrai, genre professionnellement, tu veux dire?
Non, pas professionnellement. Non, là, on est encore...
Parce que pas professionnellement, c'est... Enfin, professionnellement, c'est sûr que c'était après avoir commencé l'humour, genre longtemps après. La première fois que j'ai fait rire des gens...
Enfin, bon, franchement, je t'ai peut-être dit que t'étais douée pour ça.
Un moment en particulier, je me rappelle d'une colo où on était parti... Enfin, où j'étais partie avec... Bref, on s'en fout, je connaissais pas les gens, bref. J'étais partie en colo et je sais qu'on avait fait un spectacle et que je m'étais dit, je pense que je suis plus marrante que les gens qui sont là et je pense que je peux un peu gérer mieux que les autres le spectacle de théâtre de fin d'année. Ça, je pense que je m'en rappelle, mais après de m'être dit que j'ai vraiment un moment où j'ai fait rire les gens, je saurais pas te... Non, ça me vient pas comme ça.
Non, mais ne t'en
je cherche,
pas. Hein,
non, mais je cherche. Ah, mais c'est une bonne question, je crois qu'on me l'a jamais posée, donc je...
C'est peut-être pour ça que t'as pas la réponse.
C'est vrai. C'est que j'ai pas eu le temps d'en inventer une. Je suis pas très forte en impro.
Vas-y, invente la légende.
Si, c'était incroyable, en fait. Je me rappelle, j'avais 3 ans et j'ai fait une blague politique
sur le pot,
ouais. C'était un truc du genre, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on va au pot, les gens nous applaudissent. Bon, bref, pas de chute à cette blague. Il y avait pas de chute, mais les gens étaient déjà impressionnés par
bien sûr,
tout ça. Ouais, la gouaille. Et puis l'accent marseillais que j'avais fait, bien sûr.
C'est alors sûr. Que tu ne viens pas du tout de Marseille,
pas du tout. Pas du tout, c'est pas du tout mon... Non.
Ça, c'est pas la même limonade, hein. Non. C'est sûr. Mais donc, alors, en préparant mes questions, donc, je me suis un peu spoilée parce que j'ai commencé à écouter un autre podcast tout intervenu, donc feu l'exceptionnel, sois gentil, dis merci, fais un bisou. Mais du coup, j'ai cru comprendre que le déclic pour toi, ça a été un spectacle en particulier. Le déclic de devenir humoriste?
Alors oui, et en fait ça a été ce déclic, il s'est fait en 2 fois. Ah, c'est drôle parce que...
Ah, c'est un double déclic.
En fait c'est drôle parce que je t'aurais pas dit ce déclic là. Donc c'est ça qui est drôle.
Ah bah génial, ok.
C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, genre la meuf. Là vous êtes en train de passer un moment délicieux en m'écoutant, j'en suis persuadée. Non, en fait, oui, alors oui. Je suis allée voir Anne Roumanoff.
Ouais, donc ça c'est l'histoire, ça fait partie de la légende
Marine Ça fait partie de la légende Marine Bagousson. Je suis allée voir Anne Roumanoff en spectacle et... Je me suis rendu compte que c'était un métier.
Ouais.
Donc ça, c'était un truc de fou parce que vraiment, j'ai eu ce truc de ah, mais d'accord. Donc en fait, on peut professionnellement, en fait, je veux dire, ça se fait. Mais je pense aussi que ça venait du fait que c'était une femme et que dans moi, les artistes que j'aimais ou que je voyais à la télé, c'était quand même principalement des hommes et que du coup, je devais pas forcément m'identifier. Enfin, je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Et c'est vrai que quand on m'a offert une place pour aller voir Anne Roumanoff, je m'étais pas dit, oh là là, Anne Roumanoff, incroyable, j'adore. Je pense que j'étais contente d'aller voir un spectacle. Mm-hmm. Je pense que j'étais contente de voir quelqu'un de connu, en fait. Juste en vrai. Et donc, mais je sais que j'étais genre au 3e rang, au milieu, hyper bien placée. Ce qui est drôle, c'est que je retourne dans cette salle à la fin de l'année pour jouer mon spectacle. Donc, je pense que ça va être un peu émouvant pour moi de me dire, il y a eu ce moment-là où je me suis dit que je pouvais faire ce métier et je reviens y jouer.
Et c'est quelle salle?
Et c'est à Langueux, okay. En Bretagne, et c'est une salle de théâtre. Et donc, du coup, je suis trop contente. Bref, j'y retourne. Et donc, bref, j'ai vu ce spectacle et je me suis dit, mais on peut en vivre, on peut le faire, c'est possible. Et je me rappelle que ça avait été vraiment un truc. Et j'avais écrit après à Anne Romanoff et tout. Je lui avais envoyé un mail. Donc, c'était l'époque où je devais m'appeler genre framboisecaramel@caramel.fr.
Ce qui ne va pas très bien ensemble, framboise caramel, en tant
que. Bah, je sais pas. Moi, je trouvais que c'était assez cool. Je me demande même si c'était pas genre framboise cara.
Ouh.
Tu vois. Je trouvais que c'était des trucs cool, tu vois. Et... Mmh. Donc, voilà. Et je lui avais écrit et tout. Bon. Et elle m'avait répondu. Et c'était assez... ouais, ça avait été vraiment un truc de révélation. Elle avait signé une photo d'identité. Enfin, pas une photo d'identité, mais une photo pour moi et tout. Et je sais que je m'étais dit, putain, c'est un métier. Et à partir de là, je me suis dit, ah, peut-être que je pourrais essayer de faire ça. Et donc après, j'étais rentrée dans une école de théâtre, enfin, au lycée, hein, donc c'était mon option obligatoire. Et tout ça, et donc, ça vient de là. Mais le deuxième déclic, il faut que je te parle maintenant du deuxième déclic ou pas ?
Bah oui, par pitié.
Ah oui. Et ben en fait, donc j'ai fait une option théâtre obligatoire et tout en me disant je veux faire de l'humour et tout ça, c'est hyper important pour moi, mais j'avais jamais vu de théâtre. Donc en fait, après je suis arrivée au lycée et je suis allée voir une pièce de théâtre, mais c'était une pièce où le mec il était à poil, il arrivait, il y avait un peu d'eau et puis c'était genre c'est un Tchekhov quoi. C'est ah mais que sais-je, voilà, bref. C'est pas les vrais mots, là je suis partie en impro encore, c'était excellent, vous y étiez j'imagine, les poils, excellent. Et donc, et en fait j'ai vu ce théâtre-là, qui était du théâtre, du grand théâtre, avec du texte, avec une espèce de mise en scène un peu magistrale et tout comme ça, et c'est vrai que je suis un peu tombée aussi de ma chaise en me disant mais c'est magnifique ce que je vois là, et je me suis dit c'est ça que je veux faire, absolument. Je veux vraiment faire ce genre de théâtre-là, créer ce genre d'émotion-là, avoir des choses comme ça aussi grandes et un théâtre aussi grand que ça. J'avais l'impression que c'était noble, que c'était plus noble en fait. Et avec le temps, je me suis rendu compte aussi que bah, j'avais un physique à pas avoir un premier rôle, que j'ai plutôt un physique à avoir le rôle de la servante, et c'est un peu une déception. En tout cas moi c'était une déception, et ensuite donc je suis rentrée au conservatoire à Rennes, donc je suis trop contente, on a fait le truc, j'ai passé les auditions, c'était vachement bien, et toute l'année on bossait et je sentais que j'étais pas exactement à ma place, et là où et donc en fait je suis pas très claire, mais j'ai vu Anne Romanoff, je me suis dit je veux faire de l'humour, mais quelques mois après je me suis dit en fait ce que je veux faire c'est du théâtre, c'est je veux jouer les grands textes,
la dramédie, la tragédie,
voilà, c'est ça, exactement. Et ensuite quand je suis arrivée au conservatoire, qu'on a commencé à travailler ça vraiment, je me sentais pas exactement à ma place, et un jour on m'a fait jouer un monologue de Sarah Kane qui s'appelle 448 psychose, qui est sur le suicide, que je vous invite très vivement à lire sauf si vous êtes pas en forme en ce moment, mais qui est magnifique, qui est très très beau, et je me retrouve à jouer ce texte là et il se passe vraiment un truc. Je pense que j'ai jamais aussi bien joué de toute ma vie, c'est-à-dire que d'un coup j'étais complètement dans une espèce de transe quoi, j'étais en larmes, j'arrivais plus à respirer, j'étais complètement par terre, je bavais, enfin il y avait un truc, je pense que c'était une transe, j'ai pas d'autre mot, il y avait vraiment une transe. Et en fait à la fin de ce truc là je me suis dit je n'arriverai pas à faire ça toute ma vie, ce n'est pas pour moi, je ne saurais pas recréer ça chaque soir, je n'ai pas envie de le recréer parce que c'est trop violent, c'est le genre de truc où tu sais t'as du mal à t'en sortir après et tout, et je me suis dit c'est pas pour moi. Et à ce moment là je me suis dit mais en fait c'est pas ça que je veux faire, c'est pas pour ça que je suis arrivée au théâtre parce que je voulais faire rire les gens, que je voulais que les textes soient les miens, que je voulais pouvoir être moi sur scène. Et donc du coup il y a eu ce truc de me dire bah j'ai envie de voilà, de faire autre chose. Et donc après j'en ai parlé à ma prof de conservatoire qui m'a dit écoute Marine, j'ai très bien compris, mais si tu veux, je te propose que tu travailles des textes de Raymond Devos, un petit peu comme on bosse ceux de Molière, et ça l'a pas fait, et j'ai quitté le conservatoire parce que ça me convenait pas. Mais
il y a
en
quand
tout
même
cas
un monde entre Sarah Kane, complètement, et Raymond Devos, quoi.
Oui, mais je pense qu'aussi elle était complètement désarmée, c'est-à-dire qu'en fait ce que je lui demandais c'était de faire un théâtre qu'elle ne considérait pas elle-même comme du théâtre. Mmh. Donc pour elle, qu'est-ce qui était noble ? Bah, Raymond Devos, ce mec, ce vieux monsieur qui fait des... Je laisse passer le truc parce que je sais pas si pour vous...
Tellement pro. Tellement professionnel.
Oh, c'est que dalle, j'ai moi-même...
Oh bah t'inquiète, on va en parler
un
après.
Un podcast. Mais en tout cas, je pense que elle s'est dit, bah, je vais bosser, enfin je vais lui faire du Raymond Devos, parce que pour elle, c'était la référence en fait. Mmh. Elle était vieille. Elle était merveilleuse, hein, mais elle était vieille, elle savait pas, et puis elle savait pas par où commencer. Et puis qu'est-ce qui était sorti, il y avait des textes à l'époque et tout ça, bah c'était Raymond Devos, donc elle m'a proposé du Raymond Devos, mais je pense qu'elle savait pas quoi faire. Et de toute façon, elle avait pas les clés pour le faire. Et puis à ce moment-là, en plus, maintenant les frontières sont beaucoup plus poreuses. Ce qui est intéressant, toujours la meuf qui pense qu'elle est intéressante, mais je suis retournée dans mon lycée il n'y a pas longtemps, en tant que fille qui désormais fait vraiment du théâtre et qui en vit maintenant, parce que c'était les 20 ans de mon orientation sexuelle, et, non, les 20 ans de mon orientation théâtre, enfin de la section littéraire avec théâtre option spécialité, au lycée Joseph Savina à Tréguier. Et c'était intéressant parce que je me suis retrouvée face à des élèves qui étaient complètement bluffés par le fait que je sois humoriste et qui, pour eux, était quelque chose qu'ils envisageaient et c'était pas du tout la honte, c'était quelque chose de très pro. Alors que moi, à mon époque, toute ma génération nous aurait dit, on va vous faire rencontrer un humoriste, ils auraient tous dit, bon, non, on s'en fout, ça nous intéresse pas.
Ça dépend quel humoriste, en fait.
Non, je pense pas.
Ok.
Je pense que pour... Enfin, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est vraiment un truc de, ce n'est pas du théâtre, c'est pas assez noble, c'est pas assez grand, c'est pas assez beau. Et je trouve qu'avec le temps, il y a une espèce de... C'est devenu beaucoup plus poreux, en tout cas, toutes les frontières... entre l'humour, le one-man show, le stand-up et d'un coup le théâtre, le grand théâtre. C'est la sensation que j'ai. Parce que vraiment, eux, ils étaient... clairement, il y en a qui me disaient « Bah ouais, moi j'ai envie d'être humoriste. Moi, c'est vrai que j'envisage de faire des vidéos sur YouTube. » Et c'était assez bluffant parce que... Ouais, moi, je pense que je serais morte de honte d'avoir dit ça à l'époque, quoi. Que moi, j'avais envie de faire rire les gens.
Mais pourquoi ? Tu penses que c'est dû à
ça ? Parce que c'était pas valorisé. Enfin, encore aujourd'hui, hein. J'ai des conversations parfois avec des gens qui me disent « Mais bon, ce que tu fais, c'est surtout du showbiz, hein. C'est pas du théâtre, hein. »
Et tu te sens vraiment faire partie du showbiz, toi, ou pas ?
Bah, c'est vrai que j'ai déjà rencontré Kev Adams, ouais. Mais oui, effectivement, il y a une partie du showbiz qui est aussi due au fait qu'on fait du théâtre privé.
Mais c'est de la communication plus que du showbiz, finalement.
Bon, ça dépend, en fait. Ça dépend dans à quel événement on est et ce qu'on fait. Après, je reste persuadée aujourd'hui que... Un théâtre, même national, qui galère à remplir sa salle. Alors, tous les théâtres galèrent pas, mais aujourd'hui, qui fait venir des gens dans des théâtres, notamment, enfin, en tout cas, du public qui n'est pas déjà éduqué au théâtre, c'est les humoristes. Et donc, en fait, si tu fais venir des humoristes dans ta salle, potentiellement, tu peux te créer un nouveau public qui va faire que peut-être les gens vont s'intéresser et te faire confiance et découvrir d'autres choses, et notamment du théâtre peut-être public, en tout cas, ou du théâtre... avec des grands auteurs, des grandes mises en scène et ces choses-là qui, moi, m'ont bouleversée quand j'ai commencé le théâtre.
Et donc, juste après la période Raymond DeVos ?
Bah, j'ai arrêté le conservatoire et je me suis renseignée sur...
À cause de ça ? Parce que tu te sentais pas...
Parce que j'ai vu... En fait, j'ai compris que j'aurais pas ce que je cherchais.
Ouais.
Et donc, j'ai arrêté. Et j'ai fait encore une année, parce que j'étais à la fac aussi en études théâtrales, j'ai continué. Et j'ai commencé à chercher, je me suis dit, bon, je veux faire rire, mais je suis à Rennes, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire, je ne connais pas d'école, comment je peux faire ? Et je me suis rendu compte qu'il y avait une école à Paris qui s'appelle l'école du Bout, il y avait aussi une école à Montréal, mais l'école de Montréal, c'était beaucoup trop cher, c'était beaucoup trop loin, et puis du coup, c'était compliqué de l'envisager, je ne savais pas par où commencer, donc du coup, j'ai travaillé pour pouvoir m'inscrire à l'école du Bout, à Paris. Et c'est comme ça que j'ai commencé, je suis rentrée un peu dans ce truc-là, c'est-à-dire que j'avais rien, je savais pas comment écrire, je savais pas ce que je voulais raconter, mais je savais que je voulais être sur scène toute seule à faire rire les gens.
Et t'as jamais douté, t'as jamais été découragée, parce que quand t'arrives à Paris, tu connais pas forcément, enfin je sais pas, tu connaissais des gens dans le milieu ?
Non, je connaissais personne, je connaissais rien ni personne.
Et t'as su par où commencer ?
Non, en fait, j'ai cherché ce truc-là, j'ai vu qu'il y avait une école qui existait. Je me suis dit, bon, bah, s'il y a bien enfin, pour moi, c'est ce qu'on nous apprend en France. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose, il faut aller à l'école.
Ouais.
Donc, moi, pour moi, c'était une évidence que, bah, oui, je sais rien faire et oui, j'ai jamais rien fait, mais de toute façon, je vais aller à l'école. Et donc, pour moi, ça me décourageait pas. Je me disais, j'ai tout à construire. J'avais 18 ans, 19 ans, 20 ans, 20 ans quand je suis arrivée à Paris. J'avais 20 ans, je me disais, bon, bah, voilà, j'ai tout à faire. Donc, non, j'étais pas du tout découragée. J'avais une fin de. Enfin, je me disais, c'est pas grave, je vais galérer, mais ce sera poétique, j'en parlerai plus tard dans mes interviews sur Paris Match. Enfin, tu vois, il y avait un truc où vraiment je me disais, waouh, je savais pas encore que j'allais faire des clics. Mais sinon, évidemment, à l'époque, j'en aurais pas. Sinon, évidemment, à l'époque, c'était ça que j'aurais
non,
imaginé.
Mais c'était le but. Voilà, on peut s'arrêter, quoi, finalement.
Donc, non, je me disais pas du tout que le fait de connaître personne, c'était pas un problème, quoi. Enfin, que c'était un problème, pardon.
Et cette expérience d'école, ça a été une vraie bonne formation pour toi ou t'as plus...
Ça a été... ça dépend. Ça dépend, okay. C'était très cher. et puis je pense que l'école, elle est bien meilleure aujourd'hui. Parce que j'ai plein de copains qui y sont et qui sont profs, et je pense que de ce que je vois, c'est beaucoup plus professionnalisant. En fait, en gros, tu t'inscris dans une école où on te dit, de toute façon, tu n'auras pas un métier à la fin, en fait. Donc,
encourageant.
Non, mais en fait, c'est normal, c'est parce que c'est un métier qui ne peut pas s'apprendre, enfin, qui s'apprend un peu à l'école, et c'est une chance de pouvoir partager, échanger avec les autres. Mais c'est un métier, enfin, moi, vraiment, la première fois que je me suis retrouvée sur scène toute seule à faire rire des gens, en vrai, je me suis rendu compte à quel point tout ce que j'avais fait avant ne me servait pas et était complètement inutile. Parce que tu peux pas te préparer à aller devant des gens et à te prendre un bide en parlant de toi. Je pouvais pas être prête à ça. Et donc en fait, cette sensation de vide et de déception aussi, parce que d'un coup, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas le génie qu'on pensait. Et ben ça, c'est un peu, faut se heurter à ça, quoi.
Mais ça, à la limite, ça pourrait être un cours super intéressant dans ce genre d'école. Genre,
mais je pense que maintenant, c'est
coaching,
beaucoup plus...
Coaching du bide.
Franchement, ça, je pense que ça peut être intéressant. Mais je pense que, par exemple, Charlotte Soignon, là, elle a ouvert une école dans son café-théâtre, enfin, dans son comédie-club. Je crois que ça s'appelle le Barbès Comedy School, un truc comme ça. Okay. Et Charlotte, elle a une approche, en tout cas, je pense que par rapport à l'école, s'il y a des jeunes humoristes, des jeunes qui se disent « j'ai envie d'être humoriste », Charlotte, c'est hyper intéressant. Il y a des cours de sociaux. Donc, tu apprends à connaître le monde. Tu as des cours de sport. Tu as des cours de plein de trucs. Et je pense que Charlotte, elle a une vision beaucoup plus large de ce que. Charlotte, elle veut amener le stand-up beaucoup plus loin que juste des gens qui sont sur scène. Charlotte, elle veut qu'on. Elle s'en fout des blagues. Elle veut qu'on aille plus loin dans ce qu'on a envie de raconter aux gens et dans notre façon de raconter le monde. Et je pense que. Ça pourrait faire partie de l'école du bide, justement. De se dire qu'il y a plus grand que nous et que c'est pas grave, en fait, de se prendre un bide. En vrai, on s'en fout. Mais c'est juste... En fait, c'est pas grave de se prendre des bides. Ce métier, c'est juste se relever après un bide. C'est juste ça. C'est pas tant... Je crois pas.
Et toi, après ton premier bide...
Alors, je me rappelle pas de mon premier bide.
Après ton plus gros bide, t'as mis combien de temps pour t'en relever ?
Franchement, je saurais pas trop te dire. En fait, l'avantage que j'ai, c'est que je joue souvent. Donc mon premier, je sais pas. Mais parce que je pense que je jouais quand même souvent et qu'au final, ça se passait pas trop mal. Même si je pense qu'en vrai, au début, c'était vraiment pas bien. Mmh. Et là, maintenant, en fait, j'ai des bides, ça peut arriver, ça arrive. Mais je m'en remets vite parce que voilà. Là, par contre, récemment, j'ai eu ma première vague de haine sur Facebook.
Pourquoi ?
Et sur Instagram. Parce que j'ai une vidéo qui est sortie sur Topito. En gros, c'était pour faire la promo du Festival d'Humour de Paris. On m'a demandé de venir et de préparer un passage, un truc qui m'est arrivé, genre mon pire... voilà. Et moi, c'était mon pire date. Et je disais, ah, j'hésite entre deux. Et Urbain, il m'a dit, fais celui-là parce que tu vas voir, c'est vraiment marrant. Et donc, j'avais préparé mon truc et je suis contente de mon texte. Franchement, je suis contente de ce que j'ai raconté. Je trouve que... Franchement, je suis contente de la vidéo, ce qui n'est pas toujours le cas, quoi. Et là, je me suis pris, mais... Une vague, mais alors la vidéo a très bien marché, hein. Mais une vague d'insultes en fait, hein, et de méchanceté. Et ça, c'est beaucoup plus dur de s'en relever, je trouve, que de se relever d'un bide. Déjà parce qu'à la fin de ton passage, quand tu fais un bide, t'as pas tout le public qui vient te dire « t'es vraiment une merde ». Ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Les gens, tu le sais, tu le sens, c'est pas grave. Et puis maintenant j'assume, et puis surtout je me dis maintenant je sais que je suis professionnelle suffisamment et que je peux monter sur scène et que même si je me plante, ben... Je sais que j'ai tout donné et que j'ai tout fait pour attraper les gens et que je laisse pas les gens... Enfin, je donne tout. Mais la vague de haine sur Internet qui t'explique à quel point t'es une merde et à quel point vraiment t'es mauvaise et que merci de ne pas défendre le féministe. D'ailleurs, il y a un mec qui m'a dit qu'il préférait faire... Enfin, qu'il était féministe, hein, et qu'il avait vraiment essayé d'écouter mon texte. Mais que là, j'étais tellement mauvaise que ça lui avait donné envie de faire un clito à Polanski, de faire un cuni à Polanski. Et ben un truc où j'étais là, mais mon de Dieu. Quoi j'ai, là, c'était. Et donc voilà.
Non, mais à tous les coups, ce type n'est absolument pas féministe, hein, on est d'accord. C'est juste,
mais, non, mais on est, en fait, à partir du moment où il est venu m'expliquer que. Enfin, il n'était pas. Enfin, je veux dire, si ton but, c'est de venir expliquer à quelqu'un. Enfin, bref. Mais en tout cas, tout ça, c'était tellement de violence et à tous les niveaux. J'étais grosse, bon ça je le savais, bah je suis lesbienne, ah bah oui, alors du coup bah c'est problématique aussi. Enfin, il y a tout un truc où vraiment c'est beaucoup beaucoup d'infos pour les gens, et donc en fait c'était assez fou. Et ça, j'étais pas préparée. Ça, se relever de ça, je trouve que c'est beaucoup plus dur que de se relever d'un bide, en fait, finalement, parce que le bide, c'est humain, c'est vivant, et ça, tu sais aussi si t'as été bon ou pas. La vidéo qui sort 6 mois après ton passage, après que tu l'aies enregistrée, tu maîtrises rien, quoi.
Non, le cyberharcèlement, c'est ultra violent, c'est que...
Bah oui, non, mais j'ai reçu des trucs incroyables. Il y a un mec... Bon, pardon, après, c'est pas le sujet de votre truc, mais il y a un mec, un jour, dans la vague, parce que ça a duré une semaine en plus, ça, c'est rien, c'est un shot,
Ça reste long. C'est long, une semaine d'insultes, quand même.
Oui, mais... ça fait... Ouais, mais... Dans cette semaine-là, à un moment, je vois qu'il y a mon téléphone qui s'allume et je vois un message sur Facebook avec un cœur qui dit « J'adore ce que tu fais, ça me fait trop de bien. » Enfin, un truc trop mignon. Mm. Et je me dis « Ah bah, je vais le lire, ça va me faire du bien parce que là, je reçois trop de messages méchants. » Et c'était et donc, j'ouvre le truc et c'était un truc qui disait que j'étais vraiment une merde et que... Bah, merci d'ailleurs de me prévenir parce que c'est vrai que, comme je le sais pas, c'est vrai que c'est gentil de la part des gens de me prévenir que je suis une merde et que vraiment, j'étais une merde. C'était le résumé vraiment que j'étais une merde. Voilà. Et à la fin, il disait « Ah bah tiens, je vais t'envoyer un cœur, comme ça tu vas penser que c'est un message gentil et tu vas l'ouvrir. Oh » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, j'ai trouvé ça, déjà, maléfique et un peu génial. Mais en même temps...
C'est un génie des enfers. Quoi.
C'est un génie des enfers et en même temps, c'est d'une méchanceté.
Non, c'est de la cruauté pure.
Mais après, faut faire comme il se dit Fabien Licard. C'est-à-dire c'est un mec qui a 14 ans et demi et sa mère, elle lui a dit à table. Et il a fait « Ok », il a fermé, il est rentré. Mais en même temps, juste sur le moment, tu te dis « Mais... c'est tellement violent. » Mais bon, après, c'est... Donc ça, je trouve ça plus dur de s'en remettre. Qu'un beat, finalement, tu sais que tu peux faire mieux. Tu sais que tu peux revenir. Si tu fais choix de revenir. Tu sais que tu peux redonner, chercher autre chose, aller... Faut pas penser que les gens, ils ont tort de pas rire. Faut se dire comment je peux faire pour que les gens... c'est comme dit Verino, c'est trouver le chemin du rire.
Oui, d'ailleurs, alors c'est à la fois une question qui n'a rien à voir et à la fois quelque chose qui a quelque chose à voir avec. Ouais, bref.
Vends une Laguna, c'est sympa. Un truc qui n'a rien à voir. Mais ça a un peu à voir, c'est le chemin, la route du rire, évidemment. On a besoin d'une voiture pour aller.
Effectivement, un vélo, j'en ai fait la promo sur Instagram hier, mais ce n'est pas du tout le sujet. Ouais, je me demandais si tu avais eu le coup de foudre pour la scène, enfin, la première fois que tu es montée. Genre, seul en scène. Est-ce que tu as eu le coup de foudre pour la scène ou est-ce qu'au contraire, c'est vraiment un métier à part, en fait donc, est-ce que ça s'apprend, l'amour de la scène, ou est-ce que ça vient directement ou pas ?
Je dirais que c'est un peu les deux. J'ai l'impression que ça s'apprend et en même temps, c'est un coup de foudre. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je me rappelle, quand j'ai fait mon stage de 3e, peut-être que tu l'as entendu, je pense que j'ai dû le raconter dans le truc de Clémence, mais je sais plus.
Mais je ne suis pas allée jusqu'au bout.
Donc. Ah oui, donc voilà. moi, quand j'ai fait mon stage de 3e, par exemple, j'ai fait mon stage à La Passerelle, à la scène nationale de Saint-Brieuc. Mmh. Et en fait, et là, j'ai eu un vrai truc de coup de foudre. C'est-à-dire que le mec, il me dit, bah, je vais te faire visiter les lieux, et le théâtre et tout. Et puis moi, j'étais là, bah, en fait, en vrai, je connais déjà parce que je faisais mes spectacles de danse. Donc, en fait, vraiment, il n'y a pas de problème, quoi. Je connais. Et donc, il me fait visiter, il m'amène sur la grande salle. Donc, la grande salle, c'est une salle immense, magnifique, une grande scène et tout, c'est magnifique. Bon, ok. Et il me dit, il y a un deuxième théâtre. Et moi, je ne savais pas qu'il y avait un deuxième théâtre. Et je lui dis, et on passe dans un petit coin, et je lui dis, ah bah là, je connais, c'est les loges pour quand on fait la danse. Et donc, je me retrouve dans une grande pièce avec du parquet, et je dis, mais c'est les loges quand il y a la danse. Et là, le mec, il dit, non. Et il allume. Et en fait, les loges où on faisait la danse, c'était le plateau du petit théâtre à l'italienne. Et donc, je me retrouve au milieu de ce plateau. Et d'un coup, s'allume devant moi le théâtre. Et moi, je suis dans un petit théâtre. Et en plus, il est trop mignon. Il fait 200, 250 places. Enfin, c'est vraiment tout mignon. C'est un vieux truc. Et je suis là au milieu de ce truc en me disant « je connais ». Et en fait, d'un coup, un truc s'allume devant moi et c'est un théâtre. Et là, moi, j'ai un truc qui dit « moi, là, je veux rester, en fait. C'est là que je veux être ». Donc oui, il y a ce truc, effectivement, moi, à ce moment-là, de théâtre, mais qui est dans une salle vide et qui n'est pas un truc... je pense que c'est juste un coup de foudre, mais de beauté, d'une beauté, d'un lieu, d'une ambiance aussi, de la surprise d'être à un endroit où je pensais connaître et en fait, je ne connaissais pas. Enfin, je pense que j'ai eu ce truc-là. Et là, oui, moi, j'ai eu un choc, on va dire. Après, moi, j'ai l'impression que quand je monte sur scène, parfois, et que ça se passe très, très bien, en fait, c'est vraiment des moments. Par exemple, en ce moment, quand je monte sur scène, ça se passe bien à chaque fois et je me sens vraiment en puissance. Et je sens que je peux tout faire et que je peux arriver, je peux dire bonjour, les gens ils vont faire « Excellent !»« Très bien !» Mais il y a 15 jours, j'étais dans un truc où les gens... c'était beaucoup plus dur, en fait. Et pour moi, c'était plus compliqué. Et c'était plus compliqué d'avoir envie de monter sur scène, d'avoir envie de repartir, de se rebattre à chaque fois pour attraper... Parce que c'est que de la séduction, en fait. Donc... là, en ce moment, comme ça marche bien... enfin, pas genre ça marche bien ma carrière, mais comme ça marche bien le...
T'as le droit de dire si mon rapport carrière, ça marche bien, tu
sais. Bof. Mais la scène, en tout cas, sur scène, en ce moment, ce qui se passe est agréable et plutôt empouvoirant. En tout cas, je me sens... Mmh. J'ai l'impression que je suis là, que je maîtrise, que je peux tout faire et que c'est le feu. Enfin, tu vois. Et ben ça me fait à chaque fois me dire « Mais c'est tellement bon, c'est tellement bien. » Et ça me fait retomber amoureuse. Pour tous les moments où, en fait, il y a 15 jours, j'étais en train de me dire, c'est bon, j'arrête. Je refais une formation de boulangère, j'arrête.
Mais c'est dû à quoi? Enfin, est-ce que tu as un début d'explication pour ces phases où ça va pas et ces phases où ça va bien? Est-ce que c'est un truc con, mais est-ce que c'est pas genre par rapport au moment du cycle, ou est-ce que c'est pas
le truc du moment du cycle.
Check ton ovulation la prochaine fois. On sait jamais.
Là, comme ça, je peux pas te dire. À ce niveau-là, je me suis jamais posé la question. En revanche, je pense que ça vient du fait que c'est normal, en fait, de douter et d'avoir des moments plus difficiles, et puis des moments où tu progresses, et puis d'un coup, tu progresses plus. Et donc, du coup, ce qui te semble être le génial d'aujourd'hui, ou le génial d'hier, en fait, c'est un mauvais d'aujourd'hui. Enfin, tu vois, il y a un truc où on fait que progresser, on évolue, on change. On se présente différemment. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce qui fait que ça marche pour moi quand je suis sur scène, c'est que comme je ne vends rien, j'ai rien à vendre en ce moment, j'ai pas de spectacle. Enfin, en tout cas, j'ai pas pris de programmation. Donc, en fait, les gens, ils me voient et j'ai juste à leur dire j'ai un podcast à la fin. Mais à la limite, s'ils écoutent pas, ça change pas grand chose. Enfin, j'ai envie qu'ils écoutent, mais j'ai rien à leur vendre. Et donc, du coup, j'arrive là et je suis juste là dans le moment. Et comme je suis que là dans le moment et pas en me disant il faut absolument que je sois bonne parce que j'ai envie d'être repérée par un producteur, ou il faut absolument que je sois bonne parce que j'ai envie qu'ils viennent voir mon spectacle, donc il y a un acte d'achat. J'ai envie. Là, en ce moment, j'ai pas du tout ça. Donc, je pense que ça se passe bien parce qu'il n'y a pas d'enjeu, en fait. À part juste d'être là dans le moment. Après, je sais pas trop. Mais je pense que c'est forcément normal. Il y a des doutes. Enfin, ça doit vous faire ça aussi, j'imagine, de vous dire que vous êtes des merdes et puis la semaine d'après, de vous dire putain, je suis un génie.
Excellent.
C'est ça.
Oui, non, ça.
En ce moment, t'es plutôt quoi là?
Non, je suis en train de passer de merde à
ça passe.
Sur merde. Donc, ça va encore.
Ça passe, ça passe. Mais écoute, moi là, je passe un moment agréable et je me dis pas du tout que t'es une merde. Si tu peux te rassurer.
Trop plaisir, merci. Est-ce qu'il y a une morning routine, enfin une routine en fait.
Donc je me réveille là, je mets. Est-ce que derrière tu vas mettre une musique qui fait tin 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 tin. Une morning routine de
non,
quoi
mais pardon. Une routine de création en fait. Quand t'es humoriste. En fait, comment tu trouves tes sujets? Qu'est-ce qui fait que t'as envie de parler de certaines choses et...
Moi, j'ai pas de... Enfin, moi, ma...
Parce que c'est toi qui écris tout.
Moi, c'est moi qui écris tous les textes. J'ai pas de routine particulière. Souvent, ça s'écrit beaucoup sur scène. C'est-à-dire que je me dis, tiens, il m'est arrivé ça, ou tiens... Voilà, le chat est vraiment très mignon, là. Voilà. Pardon. Parce que vraiment, il me regardait genre... Coucou. Moi, c'est juste, tiens, il m'est arrivé ça, je monte sur scène et puis d'un coup, je me dis, comme je fais mon spectacle, j'ai de la place pour tenter, donc j'y vais, ou je teste des trucs comme ça. Voilà, avant, j'avais le one-man show aussi, donc en fait, c'était hyper agréable parce que du coup, j'arrivais sur scène et je préparais rien. Mais en revanche, des choses se créaient et donc du coup, je pouvais noter des choses et voilà. Parfois, je me mets à la table, mais c'est pour écrire vraiment un truc et tout. Et jusque-là, c'était plus laborieux. Et maintenant que je suis dans une routine d'écriture quasi quotidienne, parce que je suis en train
avec les podcasts,
ça me semble aussi. Enfin, je suis en train de créer un nouveau truc, une nouvelle façon de travailler. Mais Christine Béroux, elle a un tatouage au niveau du poignet où elle dit pas un jour sans écrire. Parce que pour elle, c'est très important d'écrire tous les jours parce que l'écriture est un muscle et que. Et elle est très très forte, hein, elle est vraiment. Trop forte. J'aimerais vraiment avoir son intelligence du rire, en tout cas. Mais je pense effectivement que c'est aussi beaucoup d'entraînement. En tout cas, d'écrire à la table, c'est un entraînement. Moi, je commence à m'y faire, mais c'est long. Voilà.
Okay.
Et sinon, je prends Bioderma. avec des cotons que j'ai fait avec ma tante. Voilà, bon, c'est tout.
Attends, que tu as fait avec ta tante?
Oui, on a fait des cotons, tu sais, réutilisables.
Ah! Formidable.
Bah, franchement, ça coûte tellement pas cher.
Ouais, mais ça demande de la main-d'œuvre et moi je suis pas.
Non, c'est rapide. Franchement.
Ah ouais.
Alors.
Non, mais faut une machine à.
Faut une machine et une tante qui va le faire pour toi. Comme moi.
Ah oui.
En fait, moi j'ai dit, je les découpe et tout. Et puis après, c'est elle qui a fait. Mais ça nous a fait une belle journée, tante et nièce.
Je me demandais aussi comment tu choisis les sujets dont tu vas parler. Parce que, ok, tu prépares
sur scène
rien,
ou dans vulgaire sur scène.
Non, plus sur scène. Là, c'était sur scène, mais après, dans vulgaire aussi, pourquoi pas.
Sur scène,
parce que
j'ai l'impression que je les choisis pas vraiment, en fait.
Comment. Ok, je crois que j'ai écrit cette question et ce sera vachement mieux si je le lis pas. Ouais, comment on choisit ce qu'on veut bien raconter? Est-ce que parfois ça t'arrive d'avoir l'impression d'avoir été trop intime? Comment on fait pour mettre des barrières ou d'en faire sauter?
Ah oui.
Et est-ce qu'il y a des sujets que tu t'interdis?
Il y a un sujet que je me suis interdit pendant très longtemps, qui était de parler de mon homosexualité. Je me le suis interdit parce que je trouvais que c'était pas un sujet, que je voulais pas dire aux gens que j'étais lesbienne, que je trouvais aussi que de toute façon c'était futile de le dire parce que au final je parlais d'amour et que finalement bah, quand je parlais de mes ex et de machin, en fait finalement tout le monde pouvait s'y ça nécessitait pas d'être genré puisque voilà. Okay. Et puis je me disais, puis si un jour les gens le savent, et ben au moins comme ça, et ben ils seront surpris. Peut-être ils seront homophobes, donc du coup après ils seront plus. Et en fait, bon, je pense que c'est jamais aussi marquant que d'avoir quelqu'un qui est en face de toi et qui te dit je suis lesbienne et j'assume. Je pense que c'est beaucoup plus marquant pour les gens. Et depuis que je le dis, d'ailleurs, j'ai beaucoup plus de gens qui m'écrivent pour me dire que ça leur plaît ou que voilà. Donc moi, je m'interdisais ça. Et oui, parfois je suis trop intime et parfois je raconte des choses, mais c'est souvent quand je suis dans l'impulsivité et dans un moment d'impro dans le spectacle. Et donc du coup, je me pardonne de l'être parce que je crois que mon travail, c'est... Enfin, aujourd'hui, beaucoup, mon travail, c'est de parler de moi pour voir et de mes failles et de mes... Et ce qui... Pas ce qui cloche, parce que... Mais ce qui pose question ou ce qui me travaille ou ce qui me chiffonne. Et de réussir à le sortir sur scène, attendez mes phrases sont compliquées, hein, mais et de réussir à le sortir sur scène pour voir si oui ou non les gens ça les touche à un endroit.
Ouais.
C'est-à-dire que ce qui moi me touche potentiellement, c'est que ça touche les gens. Si un truc me fait rire, c'est que potentiellement ça ferait rire les gens. J'en suis vraiment persuadée maintenant et c'est vrai que je le constate. Par exemple, là récemment, je commence à raconter sur scène que j'ai pas d'orgasme et tout ça. Et au début, je me disais mais c'est hyper personnel et c'est hyper gênant. Et en même temps, je reçois des messages de gens qui me disent « mais ça m'a fait trop du bien ». Je crois que ça peut faire du bien aux gens aussi. Alors après, je le fais pas pour que ça fasse du bien aux gens, mais je me dis si c'est mon quotidien, c'est que c'est peut-être le quotidien des autres. Et donc du coup, bah, je décide d'être ma propre moyenne des Français. Je sais pas comment dire. On dit « il y a une moyenne des Français qui fait ça », et moi je dis bah, « je suis ma moyenne », et donc du coup, les gens ils vont suivre. Je sais pas comment dire.
Il y a sûrement un mot, mais comme j'ai le cerveau globalement mort à cause de la chaleur, je ne le trouve pas.
Okay.
Mais je vois...
T'as compris ce que je voulais dire?
Tu es ton propre panel?
Non, voilà, c'est ça.
Oh,
non, mais je suis mon
j'ai trouvé.
Non, mais je suis mon propre, je suis ma propre référence.
Oui, ok.
Tu vois? Ouais. C'est-à-dire que d'un coup, il y a des gens qui vont se baser sur le fait que 40% des Français font ça. Et ben moi, je dis, bah moi, je fais ça. Donc on va estimer que 40% des Français font ça. J'ai l'impression d'être un Français, tu sais, une Française lambda. Tu vois ce que je veux dire?
Ok, je vois.
Donc et puis de toute façon, je vais pas parler de sujets qui me concernent pas. Enfin, je vais pas commencer à aller. Enfin, en tout cas, je crois que c'est plus un peu. J'ai pas envie de. Enfin, si, remarque, je le fais dans vulgaire, mais j'ai l'impression que. Ouais, je parle de moi parce que c'est plus simple, parce que c'est ce que je connais le mieux, en fait, et que c'est la chose dont je sais que je peux me moquer sans être forcément blessante, puisque donc je parle de moi.
Oui, c'est ça.
Et donc, du coup, je ne suis que la généralité de moi-même, et donc, bah. Voilà,
après si les gens se reconnaissent, et ben tant mieux pour eux.
Oui, après ça n'empêche pas que je peux être grossophobe envers moi-même et que ça n'empêche pas que c'est de la grossophobie et que donc c'est problématique parce que ce que je transmets est de la grossophobie. Mais ça après c'est à moi de travailler pour faire en sorte que d'être plus réveillée et plus au courant de toutes ces questions et de toutes ces problématiques là quoi. Donc c'est un long chemin mais je sais pas si j'ai répondu vraiment à ta question.
Tu as complètement répondu à la question.
Mais donc je ne sais pas comment je choisis mes textes, mes thèmes, je crois que mes thèmes se choisissent tout seuls.
Ouh, c'est pas toi qui vas au thème, c'est les thèmes qui viennent à toi.
Exactement.
Ah, formidable.
Je ne suis finalement qu'un passage pour le monde qui souhaite se réveiller. Non mais tu sais, il y a j'ai lu un bouquin que j'ai adoré qui s'appelle Comme par magie qui est de Elisabeth Gilbert, tu sais, c'est celle qui a fait Manche Priem et elle a un bouquin sur la créativité qui est incroyable et aussi elle a fait des TED, ils sont passionnants et en fait elle dit les idées elles sont autour de nous, alors après c'est un peu tordu hein, mais elle dit les idées elles sont là, elles sont autour de nous et elles veulent juste être réalisées, donc en fait elle cherche à un moment quelqu'un qui va être là pour réaliser l'idée quoi. Et en fait c'est drôle parce que moi je suis assez persuadée qu'en fait vraiment je trouve que c'est vrai quoi. Moi je pense que quand je dis que je suis qu'un passage, je pense que c'est vrai, c'est qu'en fait là, c'est là et à un moment il y a une idée qui dit ça va être avec elle et donc du coup on y va.
Ouais, mais c'est toi aussi qui l'as choisi. Mais moi, j'aime bien cette idée parce que ça veut dire qu'il y a plein d'idées autour de nous. Et bon, pourquoi je trouve toujours des idées pourries comme jouer à Fort Boyard en soirée voilà. Mais non, tu peux pas être qu'un passage parce qu'après, tu prends l'idée, puis tu la retravailles, et puis tu t'en fais la tienne.
Non, mais après, l'idée, toi, tu la réalises comme tu veux, à ta manière.
Okay.
Mais finalement, par exemple, il y a des sujets qui sont dans l'air, non?
Oui, j'aime bien. C'est quand, en fait, c'est quand j'ai pas.
Non, 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 tu te trompes, Marine, écoute.
Écoute, j'ai bien lu ta biographie et il me semble que c'est pas comme ça que tu travailles.
Tu arrêtes.
Tu veux... Allez, voilà.
Non, mais. En... Oui, en... après, c'est quand même. Non, mais. Mais après, c'est une façon de voir les choses et c'est pas en vrai. Je pense pas qu'il y a une idée.
C'est pas ma façon, Marine Baousson.
Non, mais.
Vous ne me convaincrez pas.
Écoutez. Mais c'est une façon de voir les choses et après, tu vas réaliser les trucs comme tu veux. Puis... Mais. Faut regarder son TED. En fait,
oh,
elle
bah, raconte... Laissez-moi tranquille.
Non, mais elle raconte, par exemple, dans son livre, et c'est assez marrant, elle raconte qu'en fait, elle, à un moment, elle a eu une idée pour un bouquin et qu'elle a commencé à l'écrire et tout ça. Et que c'était une histoire de botaniste et machin, voilà. Et entre-temps, on lui a proposé autre chose. Et elle a plus eu le temps de faire... Donc, elle a laissé ce projet-là de côté et du coup, il est en train de mourir. Et en fait, elle dit, un jour, elle rencontre une autrice qu'elle adore, elles se font la bise, elles se disent bonjour et tout. Et elle dit, quelques temps plus tard, la meuf sort un bouquin. Et sans qu'elle s'en soit parlé du tout, c'était la même histoire, le même genre de personnage, le même truc.
Genre quand elles se sont fait la bise.
Et en fait, elle est persuadée que l'idée qui souhaitait être réalisée s'est dit « je ne suis pas réalisée avec Elizabeth Gilbert, ça me fait chier, et ben, je vais aller avec cette personne qui a le temps, l'espace et la disponibilité pour que mon idée se réalise, que je me réalise ». Et je sais que c'est con parce que franchement c'est un truc, je crois pas en Dieu, mais pourtant je crois en les idées qui se baladent. Bah, mais bon.
Oui, c'est bien comme idée.
Mais tu vois, et ben, je trouve que... Je sais pas, moi ça me plaît cette idée-là.
Moi je suis hyper jalouse parce qu'il y a des gens qui ont des idées incroyables et moi c'est genre bah si je mangeais un caillou, enfin.
Mais déprime. Oui, mais qu'est-ce que t'en sais que finalement c'est pas ça le génie
de manger un caillou.
Bah peut-être que tu sais pas.
Ouais, mais on est rarement payé pour sucer des cailloux.
Pour manger des cailloux, bah franchement dans des cirques, je suis sûre que les gens qui mangent des cailloux, ils trouvent des trucs.
Comment tu te vois maintenant que tu vis de ta passion pour la scène?
Je me vois.
J'adore lire mes questions de manière très.
Écoute, Sophie. Non, comment je me vois, je sais pas. Franchement, je crois que je saurais pas trop répondre à cette question.
Mais t'es contente?
Ouais, bah je suis contente d'en vivre. Je suis contente de pas galérer à faire des cachets. Je suis contente de me dire, bah là, il y a le Covid. Bon, c'est chiant parce que je gagne beaucoup moins ma vie qu'avant parce que je joue beaucoup moins. Mais je suis pas en train de mourir de faim et en train de me dire comment je vais faire. Je suis pas un artiste qui est en galère. Donc ça, c'est quand même chouette. Une artiste, en l'occurrence. Donc, comment je me vois comme... Bah comme quelqu'un qui est chanceux de faire son métier.
Et qu'est-ce qui a fait que t'es arrivée au podcast? Parce que depuis quelques mois, slash semaines.
Ouais, ça fait deux mois. J'ai commencé 1er juillet.
Ok, donc ça fait 2 mois et demi.
Voilà.
Oui, donc je disais, alors depuis presque 3 mois, tu écris.
Bientôt 3 mois. Parce que ça sort quand? On sait pas, on n'a pas l'info.
Ah oui, bah un peu plus de 3 mois du coup.
C'est pas grave, donc depuis quelques temps.
Non, mais attends, je vais prendre des bons mecs. Oui, tu écris, produis et animes les podcasts vulgaires qui sont excellents.
Merci, bon, petite faillotte.
Ce matin, ouais, un peu. Non, en vrai, non, je le pense vraiment. Et d'ailleurs, tout à l'heure, dans le train, j'ai lancé l'épisode sur le clitoris sans avoir branché mes écouteurs Bluetooth.
Je suis désolée.
Non, en même temps, c'est de la formation. Et puis, pardon, faut que j'arrête de le bouffer. Et puis bon, c'était juste la pub en fait. Donc,
ah bon, ça va, c'était un truc pour Hyundai. Ouais. Je sais pas. Mon frère il m'a envoyé un message, il m'a dit il y a une pub pour le Puy du Fou là avant ton truc, donc c'est un peu abusé.
Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancée là-dedans?
Alors, l'histoire de Vulgaire. Je suis contente, c'est la première fois que je raconte.
Okay.
Qu'est-ce qui fait que je me suis lancée là-dedans? C'est qu'en fait, j'ai. Tu lis la grande histoire ou la petite histoire?
Je veux tout.
Il y a. Un an et demi.
En 1986.
C'est ça. Il y a un an et demi, je suis allée fêter mon anniversaire avec Sophie-Marie Laroui chez moi, en Bretagne. Mm-hmm. Et elle disait, il faudrait que je fasse des nouveaux podcasts pour Binge. Et donc, en fait, on a commencé un peu à chercher des trucs. Et je lui ai dit, mais ce serait trop bien d'avoir un truc où tu raconterais, tu vulgariserais des trucs de l'histoire ou des trucs scientifiques. Je lui ai dit, parce qu'avec toi, comment tu les racontes? Enfin, je suis sûre que ce serait marrant. Et je lui avais pondu un espèce de concept où je lui disais, bah, tu fais venir... un spécialiste d'un truc qui te raconte un truc très précis pendant 3 minutes. Après, il me le raconte à moi. Moi, je te le redis tout de suite en 3 minutes aussi. Et toi, ce que tu sors, voilà. Et donc, du coup, ce serait une sorte de, ouais, de bouche à oreille comme ça, de truc. Et toi, tu le diras à ta manière et ce serait marrant. Elle m'avait dit, ah ouais, l'idée, elle est bonne et tout. Et puis, en fait, on n'en avait rien fait et c'était juste tombé comme ça. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, c'est quand même dommage. Moi, j'aime vraiment bien ce truc. Et je m'étais dit, je vais en faire des vidéos. Donc, j'ai commencé à bosser pour en faire des vidéos. Et j'ai même tourné une vidéo de vulgaire et tout. Et je me suis dit, ça marche pas. Il y avait un truc, je me disais, ça marche pas. Et en plus, ce truc de ouf, le mec qui avait enregistré, bref, son ordi a cramé. Et donc, du coup, il n'y a plus rien. Et c'est-à-dire qu'on a plus de rush, on a plus rien. On a tourné.
C'est du destin, quoi.
Non, mais attends, je faisais avec une invitée et tout.
Ah ouais?
Ah, mais il y a une meuf qui était venue, enfin, elle est trop sympa et tout, qui était venue parler des abeilles. Enfin, tu vois, c'est. Et donc là, on avait tourné ça chez My Little Paris. Enfin, ils ont des studios, ils nous avaient tout prêté et tout. Enfin, vraiment, gros truc. Et genre, son ordi et son backup, là,
mais non.
Son disque dur, tout crame en même temps. Donc lui, t'imagines en plus son boulot. Enfin bref, une catastrophe. Oh, et là, moi, je me dis, bon, bah, là, c'est signe du destin, c'est que ça ne veut pas. Et j'ai été recontactée il y a quelques temps pour proposer des concepts d'humour, enfin de podcast d'humour. Et puis ils m'ont dit, oh bah finalement, non, ça va, merci. Et moi, entre-temps, j'avais reproposé Vulgaire, mais fait par moi. Et voilà. Et puis ils m'avaient dit, ah non, et tout. Et puis au bout d'un moment, là, il y a eu le confinement. Et je me suis dit, bon, là, j'ai rien à faire, je fais rien. S'il y a un truc que je dois faire, c'est maintenant, c'est Vulgaire. Parce que, après tout, là, j'ai rien à faire. Je peux le faire de chez moi, ça va m'occuper. J'ai jamais eu le temps. Et entre-temps, il y a Mathilde d'Acast qui m'a dit, mais Marine, fais un podcast. Putain, mais quand est-ce que tu fais un podcast? Et donc, elle m'a dit, nous, on te soutiendra, fais-le. Et donc, du coup, bah, je me suis lancée et j'ai commencé à bosser, à écrire des trucs, à chercher. Et je suis très contente de l'avoir fait. C'était très long comme histoire pour raconter pas grand-chose, vous, ça va?
Non, c'était pas si long que ça.
Et ok, bah, donc du coup, je vais reprendre. Alors, moi, c'est vrai qu'avec Sophie-Marie, on s'est rencontrés...
Est-ce que c'est un truc que tu que t'as envie de faire, de diversifier de plus en plus tes activités?
Oui.
Tu veux, merci.
Tu veux dire par rapport au podcast, par exemple, ou faire d'autres trucs,
stand-up, ou... podcast, et est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te font envie après?
Bah, oui, je vais te dire oui comme ça, mais sans savoir de quoi je parle exactement. C'est-à-dire que ça m'intéresse de faire plein de choses de manière générale. Après, là, comme ça, je suis tellement dedans et j'ai tellement... Ouais. Que je vois pas trop quoi après. Mais oui, bien sûr.
Ouais, donc si là, je te disais, genre, mettons, je suis une entité genre, de type un génie, et voilà, je te dis, illimité, c'est open bar sur les vœux, sur leur côté grandiloquent et ouais. Le nombre et tout ça. Et genre, dans 10 ans, tu veux être où? Tu saurais pas me dire quoi.
Ah bah si, je voudrais avoir fait l'Olympia, je voudrais, okay. Par exemple, je voudrais que Vulgaire, ça soit devenu un bouquin. Que ça soit devenu un spectacle, que ça soit devenu voilà, d'autres choses. Je voudrais avoir créé d'autres choses, je voudrais pouvoir écrire ou juste avoir des idées et demander à d'autres gens de les écrire pour moi ou pour d'autres. Enfin, j'ai plein d'idées souvent, mais j'ai plein d'idées, mais je ne suis pas très forte pour les réaliser.
Putain, pareil.
C'est ça, mais on ne peut pas causer gestes barrières. En même temps, on mange dans le même paquet de bonbons. Donc,
oui, certes.
Mais,
j'ai craché dedans titre. Aussi.
Ah oui, très bien. Mais c'est vrai que je pense qu'à un moment dans ma vie, je pense que j'aurai des idées, je demanderai à des gens de les faire pour moi, enfin pas pour moi, mais de travailler pour que ça existe et que ce soit fait par d'autres, mais je pense que ce sera un truc comme ça, ouais.
En même temps, c'est pas forcément vrai, parce que bah, t'as eu envie de faire des podcasts et tu les as fait, alors ça t'a pris 1 an et demi, mais tu les as fait.
Oui, mais ça, en fait, les podcasts, je les ai faits, mais aussi parce que j'ai de la chance, d'un coup, enfin franchement, j'ai l'impression que ce podcast-là, c'est une sorte d'alignement des planètes, dans la mesure où j'ai eu du temps pour le faire, j'ai eu des gens qui ont été d'accord de bosser avec moi, genre un monteur qui s'appelle Guillaume Béra, qui a été d'accord de le faire pour un prix défiant toute concurrence, une graphiste qui est incroyable et qui me sort une illustration à chaque fois pour un prix défiant toute concurrence, des gens qui bossent dans la com qui m'ont aidé pour un prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire que d'un coup j'ai eu un truc de gens qui m'ont dit bah nous on aime bien ce que tu fais et on est d'accord de bosser avec toi et de le faire pour pas trop cher, comme ça on va faire en sorte que ton projet soit mis en avant à des moments. Mais tout ça c'est déjà parce que j'ai travaillé avant et que je peux me permettre de le payer, donc c'est des économies sur mon spectacle et tout ça. Et c'est je sais même plus ta question. Mais en tout cas, c'est aussi c'est un coup de bol, quoi, je crois. Après, j'en parle, c'est comme si j'avais fait 8500 écoutes. Enfin, pas 8500 écoutes, mais des millions d'écoutes. Voilà, c'est ça. Alors qu'en fait, bon, il n'y en a pas tant que ça, mais quand même.
Non, mais c'est très bien, c'est très enthousiasmant, les débuts de projet comme ça.
Oui. Non, mais j'espère que, en tout cas, ce projet, j'espère qu'il va faire d'autres trucs, quoi. Vraiment, j'aimerais bien faire un bouquin un jour.
C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Un bouquin vulgaire ou un bouquin un autre?
Un bouquin vulgaire, je trouverais ça trop génial.
Bien, on arrive à la dernière question.
Déjà, putain.
Ah oui, ça passe vite. Oh là là, quand on s'amuse.
Ça fait déjà 56 minutes d'interview.
Ouais, donc je vais te poser la question un petit peu qu'on pose à chaque invité, la question phare du déclic.
Qu'est-ce que c'est pour toi la poudre ? Ah non, pardon, c'est pas ça. c'est pas celle-là.
Si tu pouvais dire quelque chose à la toi d'avant ton déclic, tu lui dirais quoi ?
Qu'est-ce que je me dirais à moi d'avant ? Je me dirais économise de l'argent. Oui. Je crois que mon mois d'avant mon déclic, je ne dirais pas de changer des choses par rapport à son métier. Parce que je crois que mon chemin est comme il est et puis au final, ça fait ce que je suis. Et voilà. Mais je lui dirais économise et achète-toi un appart en Bretagne. Tu ne regretteras pas plus tard. Donc je sais que c'est nul. Ma réponse, elle n'est pas très émouvante.
Non, elle est géniale en fait. Oui, non, mais je trouve ça bien, le côté pragmatique. Il y a plein de choses que je regrette, moi aussi, au niveau des économies et tout.
Donc voilà.
Parce qu'après, ça donne des ailes, quoi. Une fois que
t'es blindé,
stabilisé. Tu sais, une fois que t'as une situation stable, ouais. Bon, en fait tout est possible, quoi.
Exactement. Donc si tu peux, économise et fais moins de cadeaux aux gens et puis garde plus tes sous là pour toi et puis voilà et puis du coup tu verras, ce sera mieux. Franchement, je crois que c'est ça que je me dirais.
Et ben écoute, c'est
pas. Ou sinon, je me dirais de lire Lettre à l'ado. T'étais dedans, non?
Ouais.
Lettre à l'ado. Bah voilà. On s'est parlé aussi déjà.
Bah, oui.
Donc non, bah voilà, relis la lettre. Et tu verras, tout sera dedans.
Puis fais pas chier.
Voilà, c'est ça. Ferme ta gueule. Ouais, ferme bien ta gueule. Je me dirais ça. Franchement, arrête. Tout le monde voit très bien, très clair dans ton jeu.
Une petite actu, quelque chose voilà. Alors, une petite promo à
j'en
faire.
J'en parle jamais parce que du coup, je me permets, j'ai un podcast qui s'appelle Vulgaire et qui sort tous les lundis. Et donc voilà, donc c'est ça mon actu. Et puis surtout, j'ai un spectacle aussi et qui tourne un peu, mais pas trop en ce moment à cause du Covid. Mais voilà.
Tu viens quand à Lille ?
Je ne sais pas.
Ouais, okay.
Mais je pense entre avril et juin.
Mais t'as dit ça au pif.
Non,
juste pour me faire fermer la mouille.
Je t'ai dit ça pour une raison que je vous dirai après.
Okay.
Mais voilà, en tout cas, je pense à ce moment-là à peu près. Et voilà, ça c'est mon actu, ça s'appelle Vulgaire, c'est trop bien. Et puis évidemment, je serai dans l'apéro aussi bientôt.
Oui.
Mais ça, j'ai le droit de le dire ou c'est...
Ah oui, bien sûr que t'as le droit de le dire. Ouais, je t'ai coupé sur le spectacle, mais pour retrouver les dates et les lieux, tout ça...
Bah, sur mon Instagram, il y a un Linktree. Yep.
On adore.
On adore, et puis voilà, puis je fais plein de scènes ouvertes, des trucs comme ça. Je m'occupe, quoi. Je serai à Bobino, alors ça c'est classe, je serai à Bobino le 9 mars, c'est dans très longtemps. Je présente une soirée dans le cadre du Festival d'Humour de Paris.
Dans
le 9
6
mars.
Mois.
Dans 6 mois.
Très bien.
C'est classe.
À trop hâte. Bah, merci Marine.
Merci les filles, gros bisous.
À bientôt, des bisous.
Bisous.
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode du Déclic et merci à Marine Baousson d'y avoir participé. N'hésitez pas à aller la voir sur scène et à aller découvrir Vulgaire, son podcast. On vous met toutes les infos en description. Quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode du Déclic. Abonnez-vous sur votre application d'écoute de podcast préférée, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire et allez donc découvrir, si ce n'est pas déjà fait, la chanson et l'apéro, nos 2 autres formats. À bientôt!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.